Bon, bien chers amis, je suis très heureux de vous rencontrer et de vous partager l'expérience que je fais dans ma région, la région des Grands Lacs, dont vous entendez beaucoup de choses et malheureusement beaucoup de mauvaises choses. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, mon message n'est pas de vous raconter encore les drames qui se passent chez moi, vous les connaissez, mais c'est plutôt vous partager, comme je l'ai fait déjà à Strasbourg, comme je l'ai fait aussi avec les jeunes à Schweigouz, comme je l'ai fait aussi avec les jeunes étudiants à Fribourg, en Suisse, pour vous partager une aventure que je réalise grâce à votre amitié, mais aussi grâce à vos prières, parce que c'est l'aventure de foi dont je veux parler aujourd'hui. Donc vous comprendrez finalement le fruit, vous comprendrez aussi mes limites et en même temps vous découvrirez l'espérance qui m'habite et le bénéficiaire de tout ce que vous faites comme action. Donc aujourd'hui, je propose trois étapes. D'abord, le temps de remerciement. Et puis, je développerai ce thème que j'ai choisi, oser annoncer la paix en situation de guerre. Et troisièmement, je vous parlerai concrètement de ce que nous faisons ensemble pour justement signifier que la guerre, la mort ne peuvent pas avoir le dernier mot dans un milieu où les gens se disent croyants et en même temps aussi des endroits, heureusement, où il y a encore aussi des agents, des personnes, des structures aussi qui se battent pour que cela change. D'abord, les remerciements. Je viens de passer 3 mois en Europe. J'ai eu beaucoup de conférences par rapport à ce travail. J'ai eu beaucoup de rencontres. J'ai eu beaucoup de réflexions aussi avec les collègues professeurs à Strasbourg et à Fribourg, à Paris aussi. Surtout, j'ai eu la joie d'être invité en Allemagne, à Hambourg, le 21 septembre, pour recevoir les prix pour la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs, pour vous dire finalement que les petits grains que vous semez portent des fruits et ces fruits-là commencent à être visibles même au plan international. Ce qui est une grande joie pour moi, un encouragement, mais aussi comme une dette morale pour dire ça a commencé bien, il faut que ça continue de bien fructifier. Donc merci pour ces dons. Je vois ces dons que je reçois. Certains dons sont personnels, d'autres sont associatifs. Mais pour moi, il n'y a pas de don personnel. Je crois que la cause que je défends est première pour tous les dons. J'ai vu dans l'Assemblée générale, on a mentionné d'intention de messe et tant d'autres choses. Tout cela va dans les projets parce que moi aussi, je dois contribuer à ces projets qui me tiennent à cœur et dont je parlerai bientôt comme non pas un champ associatif, d'abord, non pas un champ caritatif d'abord, mais pour moi c'est simple, c'est la suite de ma thèse tout simplement. J'ai passé 8 ans ici à travailler, une thèse de doctorat. Il faudrait que vous compreniez que tout ce qui m'a donné un verre d'eau, ceux qui ont prié avec moi, comme hier à Colmar, à Saint-Paul, tout ce qui m'a offert un peu de choucroute, tout ce qui m'ont souri tout simplement. Cela a contribué à cette œuvre-là qui était presque comme les prémices d'un travail de paix et de réconciliation, parce que pendant 8 ans, je n'ai fait que chercher les voies et moyens pour qu'après le temps d'études à Strasbourg, en rentrant chez moi, je puisse aussi donner à d'autres ce que j'ai reçu de vous. Et donc, c'est ça, c'est les grands merci qu'on peut étendre depuis les structures diocésaines de Strasbourg, depuis les curés des paroisses qui m'ont accueilli, depuis les paroissiens qui m'ont accueilli, avec lesquels aujourd'hui je forme comme une grande famille, jusqu'à vous, les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, tout cela m'apporte beaucoup de choses. Et j'aurai le temps, après ma conférence, de vous proposer des méditations par des images pour comprendre quelle spiritualité aussi est derrière ce que je fais. Ça, c'est un remerciement pour vous tous, pour votre amitié. Deuxième point, c'est le thème lui-même. Oser annoncer la paix. Pourquoi oser en fait? À Fribourg, on m'a dit, comment tu as trouvé ces verbes qui deviennent très à la mode? Je ne sais pas si c'est à la mode, oser. On me l'a dit à Fribourg, que tout ce qu'on veut entreprendre, on dit oser. Bon, j'ai vraiment, pour moi, c'est oser. Pourquoi? Parce que les contextes sociopolitiques dans lesquels nous travaillons comme Église, c'est un contexte inhumain au niveau justice, inhumain au niveau structure, inhumain au niveau des soins médicaux, au niveau de tout ce qui est social, que nous devons oser, avec les moyens des bords, pour proposer autre chose que ce que depuis 32 ans de Mobutu, maintenant depuis deux mandats de Kabila, on est en train de subir et qui, après analyse, on se rend compte que ce n'est pas avec ça qu'on va préparer nos enfants aussi un jour à jouir d'un cadre scolaire, des soins médicaux, des cadres de formation ou tout simplement être fier d'avoir eu des aînés qui auraient été responsables et qui ont préparé aussi l'après leur passage. Moi, pour la question tout de suite là, est-ce que je pense à l'après Roger, si quelque chose m'arrivait sur le terrain? Oui, c'est parce que je n'ai que ça en tête. Moi, j'ai beaucoup reçu depuis l'enfance, avec les contacts monastiques dans ma paroisse d'origine, avec un enseignement quand même qui était encore de qualité à l'époque, une formation quand même solide qui m'a permis d'aborder des études ici chez vous. Mais quand je vois ce qu'il y a derrière moi, j'ai comme une dette morale pour dire, et moi qui étais beaucoup privilégié, que puis-je faire pour que d'autres qui viennent après moi aient aussi, puissent aussi sentir la beauté de la vie, de la rencontre, de l'éducation, de la culture générale, tout simplement la beauté de vivre et de vivre heureux. Et donc oser, c'est parce que les contextes dans lesquels je suis ne portent pas du tout à ce que quelqu'un pense qu'il peut changer les choses et les changer positivement. Vous verrez par la suite, j'en parlerai, comment cette audace de la foi, audace aussi de la rencontre, l'audace de l'espérance, petit à petit, est en train de faire naître d'autres espérances, même dans ces contextes où beaucoup de jeunes sont en fait vraiment paumés concrètement. Osez annoncer l'annonce maintenant. Qu'est-ce que je propose comme annonce? Qu'ai-je à annoncer dans ce contexte-là? Sinon, tout simplement, agir. J'ai choisi plutôt que de dénoncer. C'est facile de dénoncer, c'est facile. C'est facile de critiquer les gouvernements, c'est facile de critiquer le dirigeant, l'église locale, le Vatican. C'est facile de critiquer tout cela et c'est vite fait. Et chacun a des arguments pour cela. Mais j'ai pris plutôt l'option, moi qui étais longtemps absent du pays, de ne pas ouvrir ma bouche, plutôt ouvrir mon cœur et mettre en route ma créativité pour justement proposer des actions concrètes qui peuvent interpeller et les politiques et les religieux et toute structure qui pense que nous avons aussi un héritage à proposer à nos enfants. D'où l'intuition que j'ai ramenée d'ici, moi qui ai quand même beaucoup suffisamment vécu ici, non pas seulement comme étudiant. Votre histoire m'a beaucoup intéressé. L'Allemagne et l'Alsace, j'étais là à étudier, mais je me suis dit, comment expliquer que ces gens qui ont vécu les drames de la guerre et aussi arrivent aujourd'hui à trouver des communes alsaciennes jumelées aux communes allemandes, comment se fait-il que cela soit possible? Et si c'est possible aujourd'hui pour vous, pourquoi serait-il impossible pour nous? Voilà un peu ma question. Ce n'est pas que je dois copier votre modèle, votre culture, mais il y a quand même des hommes qui ont pensé l'Europe. On connaît leurs écrits, on connaît leurs croix, leurs déboires. Mais aujourd'hui, nous goûtons justement de la croix par laquelle ils sont passés, parce qu'ils ont rêvé un jour ce qui était impensable, et qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont là, européens, j'espère qu'ils lisent cette histoire-là, qu'ils la connaissent, pour comprendre finalement que quand quelqu'un veut grandir, quand quelqu'un a une vision d'avenir, il n'a pas à céder à la fatalité. Donc je suis rentré avec tout cela comme culture, mais chez moi maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de tout cela? J'ai pensé, après analyse, je ne suis pas le premier à le faire, loin de là, il y a beaucoup de structures diocésaines qui font du travail. Tout ce qui est addiction d'eau, c'est le diocèse. Tout ce qui est hôpital, ce qui est dispensé dans les villages, c'est le diocèse, les structures diocésaines. La Caritas, c'est tout cela. Ils ont, c'est vrai, des structures qui travaillent. Mais j'ai voulu, quelque part, marcher à contre-courant. Après, je me suis rendu compte que nous sommes très fiers de cela comme Église. On se vante de cela comme Église. C'est nous l'Église catholique. Et on est fort, et on est majoritaire. On prend ça à notre compte. Et c'est bien, et c'est vrai. Mais pour moi, ça ne suffit pas en fait. Pas ça reste encore nous, comme les pharisiens d'aujourd'hui dans l'évangile. C'est encore nous, quoi. Nous faisons des choses. Alors, que faisons-nous et que disons-nous par rapport à ceux qui ne sont pas catholiques et qui voudraient voir justement comment une structure qui naît peut aussi engendrer à son sein tous, sans exception, sans discrimination, de confession ni de politique. Moi, ça m'intéressait justement cela. Et au départ, ce n'était pas si évident, je dirais tout de suite là. Mais par rapport à l'annonce, il était question de trouver une méthode qui passe par des actions concrètes, mais qui véhicule une spiritualité, une philosophie, qui ne se dira que après avoir découvert l'œuvre grandissante et non pas commencer à crier avant que l'œuvre ne grandisse. Et ça demande quoi? Pour vous qui voulez avoir tout et tout de suite, ça demande beaucoup de foi. Ça demande beaucoup d'abnégation. Ça demande beaucoup de patience. Je l'ai dit la fois passée à Strasbourg, ça passe par la souffrance aussi. Je l'ai m'appelé avec mon ami Paul qui est là. Ça passe par une nuit obscure, où tu ne comptes sur personne, où tout le monde se te regarde de travers, et moi dans mon pays, et dans les pays voisins, et accepter que c'est grâce aimé, parce qu'il s'aimait par amour et par la foi, qu'il pourra porter des fruits, que peut-être ceux qui te regardaient de travers peuvent dire, ah, ça valait la peine. Et ça, avant que ça ne grandisse, je vous assure que il faut beaucoup de patience. C'est pas que tout est joué maintenant. Mais j'en parle maintenant parce que on peut déjà voir plus ou moins les œuvres, voir les jeunes qui commencent à sourire, à trouver du travail. On peut compter, depuis qu'on a commencé au Rwanda, ça fait 60 jeunes maintenant qui sont dans le milieu du travail. Je peux en parler. Mais les moments où j'ai commencé l'œuvre au Rwanda, d'abord, et là je commence justement la phase de la paix, troisième point, quand j'ai commencé cette démarche de construire un centre de formation professionnelle, hôtellerie et tourisme au Rwanda. Quand j'allais parler à mon évêque, là, il m'a regardé deux fois. Il a rigolé un peu de moi. Roger, tu es fou. Après, il m'a dit, oui, on comprend justement que tu n'as pas été ici depuis longtemps. Ça, on me l'a dit à Fribourg aussi. Qu'est-ce que je dis là, c'est très bien, c'est magnifique, quand on a été absent au pays, tout cela. Mais les chrétiens qui sont de paroisse, où je suis passé, de Colmar, Rouffach, dans les Rides, et Saffelfelden, ceux qui me connaissent un tout petit peu auront deviné comment justement ma souffrance était encore plus grande de ne pas être au pays au moment où se passent des drames, dont je n'ai l'écho que par les médias et les échos qui ne sont pas de nature à me donner l'espérance. Donc je ne crois pas. Mais qu'est-ce que je fais devant la remarque de l'évêque? Il m'a trouvé naïf et, rassurez-vous, j'ai joué au naïf jusqu'au bout. Jusqu'à présent. J'ai dit, comme ils disent que je n'ai pas été au pays, c'est vrai, je n'ai pas été, je vais faire comme si je n'y ai pas été. Alors qu'il souffrait ce qui s'est passé. Alors, je fais comme si je n'y ai pas été. Et donc, je me lance au Rwanda, bien sûr, avec les gens que je connais quand même. qui ont été au Congo, qui ont grandi au Congo et avec lesquels on portait quand même l'intuition de garder nos liens. Je dis, avec eux, on peut travailler l'amitié transfrontalière qui permettrait à ce que et les Congolais et les Rwandais bénéficient de cette amitié. Ce centre a commencé au Rwanda, je l'ai dit, ce n'est plus un secret, je peux le dire même au niveau politique. Quand je l'ai annoncé, quand on a commencé à acheter le terrain au Rwanda, on en a parlé des chiffres là. L'argent qui est donné, c'est l'argent quand même qui est important. Le terrain acheté, oui. La fondation, quand elle commence, qui fait ça? Un Congolais. Là, du coup, on commence à se méfier au Rwanda. Et Kagame, il a envoyé des agents de renseignement dans notre école pour s'inscrire comme étudiant et aussi pour voir exactement qu'est-ce qui s'y passe. Deux personnes adultes parmi des jeunes. On m'a dit, Roger, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, faites comme si il n'y avait rien. Jouez les naïfs vous aussi. Ils ont joué les naïfs aussi. Après une année de formation, c'est eux qui sont rentrés faire la pub maintenant de notre école. Ça fait que on n'a pas de place maintenant pour inscrire les gens. On a des priorités aux pauvres. Mais aujourd'hui, cette école-là, au Rwanda, maintenant, les gens, ils ont compris qu'il n'y avait rien de politique, aucun plan derrière, tout simplement un projet d'aider les jeunes. Parce que je voulais montrer que un jeune du Rwanda, du Burundi et du Congo, ce sont nos jeunes à nous. Et que l'avenir de demain, l'avenir plutôt pour ne pas faire la tautologie, l'avenir, c'est eux. Et que l'avenir, justement, sera formé par ces contacts, ces rencontres d'amitié qui n'ont pas de frontières et qu'il faudra tout simplement que nos jeunes déjà s'y exercent à faire des ponts entre eux. Deuxième phase de souffrance, c'est dans mon pays, où on se demandait, mais pourquoi il va commencer au Rwanda? Avec tout ce que les Rwandais nous ont fait, disait-il. Oui. Là, au Rwanda, j'étais suspect, je l'ai dit plusieurs fois. Au Congo, j'étais un traître, en fait. C'est que tu trahis. En toi, c'est une trahison terrible. Comment toi, tu vas construire une école dans un pays où, justement, ce pays est considéré comme ennemi? Il fallait gérer ça aussi. Connaissant mon diocèse, c'est ça l'avantage d'avoir des racines culturelles. Je me suis dit, ils vont crier un petit moment. Après, ils vont se calmer. Là, c'est chez moi, cette fois-ci, je n'ai pas peur. Hein. Oui, je connais ma culture, donc je dis, ils vont se calmer. Et cela, justement, il fallait attendre. Le temps que on trouve un cadre, comme on est encore très catho chez nous, c'est une bonne chose. Et qu'il fallait aussi assurer mon évêque que je ne voulais pas inventer une ONG à la hauteur internationale, que c'était plutôt un apostolat. J'ai inscrit ce travail au niveau paroissial, d'abord avec des conférences, pendant 2 ans avec les jeunes, avec des carrefours de réflexion sur l'avenir des jeunes. De quoi allons-nous vivre demain? Voilà, le monde du travail, comment on peut y accéder? Tout cela, on a travaillé. Travaillé pendant 2 ans. Le temps de me rassurer que les jeunes, maintenant avec eux, on a fait des ateliers pour dire quels sont les métiers qui sont porteurs d'avenir pour notre région. Ils ont cité une vingtaine. Et parmi ces 20, on a analysé jusque à rejoindre ou à synthétiser 4 ou 5 formations, dont la mécanique automobile, dont la menuiserie, la maçonnerie, la coupe couture. Et là, bientôt, on va ajouter la soudure aussi. Ça prend du travail, c'est mon travail aussi, la soudure, selon les lieux. Une fois qu'on a fait ça, on a fait en paroisse avec l'aumônier des jeunes de la paroisse de Mouressa, parce qu'il comprenait les jeux et il est entré dedans, heureusement. Et pour le moment, c'est la paroisse qui gère les fonds que vous donnez. C'est pas Roger, c'est l'économe de la paroisse à qui de la procuration d'aller retirer l'argent au compte du foyer de paix, chez le père qui savait rien, pour acheter tous les matériaux de construction depuis la fondation jusqu'à la toiture. Vous verrez les images. Et donc, je voulais prendre du sens par rapport à cet argent aussi, dont je connais les enjeux ici, comme chez nous. Hein, l'argent. Ça, je connais. Comment un peu de temps, ça peut brouiller les relations qui étaient saines. Cela a été fait. Mais l'idée pastorale aussi qui était derrière, j'ai dit aux confrères près de la paroisse, je leur ai dit, la paroisse chez nous doit changer aussi de physionomie grâce à cette démarche des maisons de formation. Ça peut vous aider vous aussi. Pour moi, la paroisse n'est plus un lieu où les chrétiens viennent au matin, ils prient le Je vous salue Marie, tout ce qu'ils peuvent prier, la messe, et ils sont bénis par les prêtres, allez dans la paix du Christ, chacun va chez soi. Pour moi, ce n'est plus ça la paroisse pour moi. En tout cas, pas chez nous. La paroisse devra être aussi ce lieu où et les pasteurs et les fidèles chrétiens tous ensemble portent les mêmes soucis d'église et pensent les questions quotidiennes qui font la vie du citoyen. Et que les pasteurs montrent comment aussi sa pastorale n'a pas d'aboutissement si elle ne porte pas les joies et les peines de son peuple. C'est Concile Vatican II. Et donc, si on n'est pas là, on restera des patriarches qui pensent justement qu'ils ont des solutions et que d'autres ont des problèmes une fois qu'ils viennent. Et ça ne marche pas pour moi. Je pense que l'Église aujourd'hui doit comprendre qu'il n'y a pas d'une part une vie d'Église et d'autre part une vie citoyenne. Il n'y en a pas. Il n'y a pas deux vies. Il y a une vie. C'est les chrétiens et notre pape nous rappelle qu'on vous attend, vous les fidèles, dans le terrain même politique et économique en tant que chrétien et qu'on voit exactement comment les chrétiens croient. Qui croit, travaille, qui croit, rencontre les autres, qui croit, visite les autres. Y a-t-il manière chrétienne de le faire? Ça, nous tous, nous sommes attendus sur ce terrain-là, ici comme chez nous. Et donc, maintenant, pour aller droit au but, qu'est-ce qui fonde maintenant mon espérance? Mon espérance, c'est que si hier mon évêque me trouvait naïf, aujourd'hui, il a compris qu'il a vu ces vieux bâtiments qui nous a cédés à la paroisse. C'est devenu un bijou, toute une école, avec une partie de salle de classe, l'autre partie, il y a des photos là dans la salle, les ateliers qui attendent petit à petit d'être équipés et qu'il voit que ce n'est pas l'atelier de Roger, l'école de Roger, c'est l'école paroissiale, mais qui ouvre les portes à tous. Au Rwanda, on est œcuménique, au Congo, on est encore catholique, mais à mon retour là, janvier prochain, on va commencer au foyer de paix, la première rencontre des jeunes protestants et catholiques où nous voulons chanter ensemble la paix. Il y a des concerts qui sont organisés avec des concours pour que petit à petit, ils apprennent à chanter ensemble la paix parce que ce n'est pas encore le cas. Mon évêque, donc, maintenant, le 18 juin, un mois après, avant plutôt, il m'annonce qu'il y aura un match de football entre les prêtres du Rwanda et les prêtres de Bukavu. J'ai dit, quoi? Et oui. Et ça, ce jour-là, j'ai, comme on dit, les amis connaissent mon expression, suis allé au lit avec mes souliers, quoi. Tellement j'étais heureux d'apprendre, j'ai dit, oui, ce match a eu lieu, je vous assure. Oui. Ça, c'est un. Le match retour a eu lieu quand j'étais absent. Le 2 octobre, les Congolais étaient au Rwanda. Ça a eu lieu. Deuxièmement, signe d'espérance, ce sont ces jeunes du Rwanda et du Congo qui sont en train de trouver du travail. Et pour moi, un jeune qui a du travail, c'est un bandit à moi. C'est un prisonnier à moi. Voilà, c'est un milicien à moi. C'est un rebelle à moi. Voilà, ce n'est pas sorcier, c'est cela. Signe d'espérance aussi, les premiers, non, pas les premiers, le 21 septembre, au moment où je recevais les prix à Hambourg, en Allemagne, les jeunes de Gisenyi et de Goma, réunis ensemble, après les temps de festival qu'on a passé au mois de juillet ensemble, ils ont écrit une lettre à nos politiciens pour leur dire qu'ils en ont marre d'une politique qui divise et veulent travailler ensemble dans l'amitié transfrontalière. Le mot est sorti, les textes sont sur notre site internet, et ça, j'ai dit, il a fallu du temps pour que ces jeunes fassent le chemin et que par eux-mêmes arrivent à les dire pour que les choses petit à petit commence à prendre le chemin. Autre signe d'espérance, c'est votre amitié. Autre signe d'espérance, j'ai ici un contrat qu'on a signé là à Chevalgouze avec Serge et son groupe, où justement il y a une association de Chevalgouze Simoder qui vient de s'engager avec nous, signer un partenariat, où ils veulent prendre vraiment pendant 5 ans en charge l'atelier de coupe-couture de l'Oasis, donc en donnant des dons progressivement. Par exemple, cette année, ils ont donné 2 400, ils vont diminuer petit à petit pour que les temps que nous, on se prenne en charge et qu'après, on soit autonome. Pour moi, c'est le signe d'espérance. Et là, quand j'ai annoncé ça l'année passée, déjà le premier don qui a été fait par l'APA, a réveillé la conscience de mon équipe au Congo que justement on ne peut pas compter indéfiniment sur les dons extérieurs. Ils sont importants. Et donc, on a commencé, je l'ai dit tout cela à l'Assemblée générale, on a commencé une forme de banque dans la briqueterie où en fait on investit les dons reçus dans la briqueterie. Ça aide une coopérative de paysans à travailler. Ils ont l'intérêt qu'ils remettent à l'association qui est la nôtre. Cet intérêt-là sert à acheter des tissus qui servent pour la coupe-couture. Et en même temps, ces briques vont construire des chantiers en ville et dans les villages. Et c'est là que nos jeunes qui terminent la formation à maçonnerie vont travailler pour que cet argent, voilà, donne du travail en même temps. Donc là, depuis l'année passée, on a étudié le circuit, comment les dons qu'on reçoit peuvent faire un circuit économique de manière que ça profite à tout le monde. Je vois que ça marche. Et ça marche. Tous ces gens qui venaient chez moi demander de l'argent, je suis veuve, je suis orphelin, ils ne viennent plus de ce village-là parce que maintenant ils ont du travail. J'ai dit, je n'ai pas d'argent pour vous, mais avec vous, on peut créer une activité qui vous aide à générer l'argent dans votre village. Et ce qu'on a fait grâce à vos dons. Au Rwanda, c'est pareil, je l'ai déjà dit, par rapport au restaurant. Un signe d'espérance qui me porte, qui me marque encore plus, et je terminerai par là. C'est que j'ai reçu une visite d'un collègue suisse qui est prof de théologie morale et d'éthique aussi, il s'appelle Thierry Coulot, qui est directeur du département d'éthique et de morale à Fribourg. Il accompagnait son épouse qui est pasteur protestante à Neuchâtel. Il accompagnait au Rwanda avec 20 jeunes Suisses pour construire les cases dans les villages au Rwanda. Arrivé au Rwanda, il s'est dit, il faut aller saluer Roger en face. Il m'a rejoint à Goma, de Goma, on est allé à Bukavu. Et je lui ai montré tous ces chantiers-là, depuis les poissons, la pisciculture, jusqu'aux briques, jusqu'aux coupe-couture. Il a visité tous ces chantiers-là. Et après, je lui ai dit, voilà mon frère, les terrains où j'ai fait ma théologie morale. Là, comme occidental, il a pris son souffle, il a écouté les paysans, il a écouté mon comité. Et c'est lui qui m'a invité pour dire, si tu viens en Europe, viens faire des cours avec moi à Fribourg pour parler à mes étudiants, qu'ils comprennent que cette théologie dont nous parlons théoriquement a des incidences pratiques dans le changement aussi socio-culturel des gens. Il m'a invité et là on est en train de travailler avec lui pour créer pratiquement un partenariat universitaire qui devient pour moi aussi un champ d'apostolat supplémentaire. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire cela. Parce que j'ai revu moi aussi la phase d'obscurité, de nuit que j'ai traversée, elle est en train de passer derrière moi, parce que maintenant j'ai engendré tant d'enfants dans des ateliers, dans des centres de formation. Alors une bonne nouvelle, c'est vrai, je ne peux pas oublier, c'est que parmi les femmes qui sont à la coupe-couture cette année, à l'Oasis, il y a sept qui ont participé au concours provincial et qui ont gagné les concours. Et qui ont un prix chacune, rentrent à la maison avec sa machine à coudre. Donc, ils peuvent commencer dans leur village. Maintenant, nous, on n'est pas encore équipés pour le faire. Ça s'appelle les kits d'accompagnement. On ne l'a pas encore, mais on dit, nous vous formons. Après, vous allez faire un concours. Si par chance, vous vous défendez, là, vous obtiendrez des kits de sécurité sociale. Là, il y a sept qui ont eu leur prix. Et pour moi, ce sont autant de signes d'espérance qui m'habitent et que j'ai voulu partager aujourd'hui.